Merci d'écouter Europe 1, il est 19h.
Celui qui a redonné vie et chair aux combattants de la Grande Guerre entre au Panthéon. Sa flamme ne s'éteindra pas.
Emmanuel Macron devant le Panthéon, hommage à un poilu de 14-18 et grand écrivain. Maurice Genevoix fait son entrée parmi les grands hommes.
La crise sanitaire s'aggrave. Plus de 32 000 malades hospitalisés dans toute la France.
Prévenir vaut mieux que guérir. Le vaccin contre la grippe saisonnière s'est largement diffusé parmi la population, surtout parmi les plus fragiles.
Donald Trump ne reconnaît toujours pas la victoire de Joe Biden. Marine Le Pen non plus.
Épouvantable massacre dans un village du Mozambique. 50 personnes tuées par l'État islamique. L'œil de Didier François sur un pays désormais sous influence terroriste.
Un casse osé et ingénieux en Allemagne. Des malfaiteurs ont fait main basse sur le coffre du service des douanes. Plus de 6 millions d'euros envolés. La tendance météo, Anissa, le ciel qui va hésiter demain.
Oui, le ciel hésite, Isabelle, entre nuages, éclaircies et petites averses. Côté température, en revanche, nous sommes toujours demain sur la même dynamique, c'est-à-dire des valeurs 3 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Je vous donne tous les détails pour la journée de demain à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une cérémonie très attendue, l'entrée au Panthéon d'un poilu nommé Maurice Genevoix et à travers lui, la reconnaissance de la patrie pour ses frères d'armes de 14-18.
Oui, blessé lors de la bataille de Verdun, Maurice Genevoix, qui était aussi un grand écrivain, il vient d'entrer au Panthéon. Donc, son cercueil a remonté la rue Soufflot, puis il a rejoint la nef, puis la crypte de ce Panthéon sous le regard de sa famille et de ses proches. On vous retrouve, Adrien Beck, vous êtes sur place. Emmanuel Macron vient de terminer son discours, le chef de l'État qui voulait faire de ce moment quelque chose de très solennel.
Absolument. Et Emmanuel Macron, dans ce discours assez court finalement, d'une quinzaine de minutes, a voulu exalter ce qu'il appelle le courage français face au cercueil de Maurice Genevoix au milieu de la nef et à travers lui, évidemment, face à ceux de 14. Un discours pour tous les poilus, une liturgie républicaine de l'entrée du cercueil dans le Panthéon, à la lecture de deux textes de Maurice Genevoix racontant l'horreur des tranchées, une horreur vécue dans sa chair par Genevoix et par tous les poilus. Écoutez Emmanuel Macron.
Celui qui a redonné vie et chair aux combattants de la Grande Guerre entre au Panthéon. Sa flamme ne s'éteindra pas. Le lieutenant Maurice Genevoix entre ici avec tous ceux de 14. L'écrivain Maurice Genevoix entre ici avec toutes les figures qui habitent les 1000 pages de son chef-d'œuvre. Tout un peuple dressé face à l'épreuve et au tourment. Ils sont là. Avec Maurice Genevoix, entre au Panthéon un destin républicain, une existence française.
Voilà un discours très historique d'Emmanuel Macron et une filiation dressée entre ceux de 14, les révolutionnaires de 1789, mais aussi les bâtisseurs de l'Europe et de la paix, tous porteurs de ce courage français, avec un devoir rappelé à nous par le chef de l'État. Leur sacrifice, a-t-il dit, est notre dette et nos devoirs.
Adrien Beck en direct de la rue Soufflot à Paris, juste devant le Panthéon.
L'épidémie de Covid-19 au cœur d'un nouveau Conseil de défense sanitaire demain.
Oui, tout comme elle sera au centre du discours du Premier ministre Jean Castex demain soir sur la propagation de l'épidémie. Près de 32 000 malades sont hospitalisés et près de 5 000 personnes sont en réanimation. Et pourtant, Victor Dolande, il y a quand même un chiffre qui peut nous donner des raisons d'espérer.
Oui, car on a pu découvrir ce matin sur l'application Tous Anti-Covid la baisse du fameux R, ce taux de reproduction. Et de 0,93 au niveau national, c'est une bonne nouvelle car quand ce chiffre est en dessous de 1, ça veut bien dire que l'épidémie régresse. 10 personnes en contaminent seulement 9 actuellement. Ces 9 n'en contamineront à leur tour que 8 demain. Et vous comprenez bien la baisse dans le temps. Dans le détail, ce taux de reproduction est même encore plus bas dans toute l'Île-de-France. Il est de 0,8. En revanche, en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce taux est toujours légèrement au-dessus de 1. Est-ce que ce R, justement, sous la barre du R du 1 au niveau national, s'explique par le couvre-feu, couplé ensuite au confinement? Pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais ce coup de frein décidé par le gouvernement porte très probablement ses fruits. C'est en tout cas l'avis de tous les épidémiologistes que j'ai contactés aujourd'hui. Alors il faut rester très très prudent et voir si cette baisse se confirme dans le temps. En revanche, pour ce qui est de la réanimation, comme vous l'avez dit Christophe, il faudra tout de même attendre 2 à 3 semaines avant que l'on note une amélioration. 2 à 3 semaines pendant lesquelles la mortalité va automatiquement continuer à bondir.
Victor Dolande, une épidémie de coronavirus qui est venue heurter, ou plutôt s'ajouter à une autre épidémie, Isabelle, la grippe saisonnière.
Oui, vous savez que la vaccination, la campagne a débuté il y a un mois. Vous avez sans doute fait l'expérience de ces pharmacies dévalisées. Impossible de trouver un vaccin contre la grippe. Et selon le groupe Giffar, qui représente 1350 officines en France, 70% des pharmacies n'en ont plus à l'heure actuelle. Et il y a urgence, hein, parce que la campagne s'achève le 31 janvier prochain. Alors, Ève Roger, où sont passées les 11 millions de doses mises sur le marché début octobre ?
Alors, 9 millions de personnes ont déjà été vaccinées, un record à cette période de l'année. Et la bonne nouvelle, c'est que 80% d'entre elles ont plus de 65 ans. Ce sont donc des personnes à risque. Et pour beaucoup d'entre elles, c'est une première, se réjouit l'Ordre des pharmaciens. Il resterait donc environ 2 millions de doses sur le marché. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne sait dire où elles sont, dispersées dans des pharmacies ici ou là, ou encore dans les réserves des grossistes répartiteurs, ces intermédiaires entre les laboratoires et les pharmacies. Mais d'ici le mois de décembre, c'est sûr, il n'y en aura plus, explique Karine Wolfthal, présidente de l'Ordre des pharmaciens, qui mise sur une dernière cartouche.
Une fois que les stocks des pharmaciens seront épuisés, on compte sur le stock État. Et ce stock État va être distribué à partir du mois de décembre, pas uniquement dans les officines, hein, mais également possiblement dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Mais en tout cas, il y a encore une petite marge, j'allais dire, probable de vaccination possible. Et il ne faut pas oublier qu'on peut se vacciner jusqu'en décembre.
Le stock d'État permettrait de vacciner encore plusieurs millions de personnes chez les plus vulnérables avant l'apparition de l'épidémie en France, traditionnellement au moment des fêtes de Noël. Mais cette année, certains prédisent déjà que la grippe 2020 sera plus tardive et moins forte.
Une précision signée Ève Roger.
Aux États-Unis, Donald Trump ne reconnaît toujours pas la victoire de Joe Biden à la présidentielle et Marine Le Pen non plus, Christophe.
La présidente du Rassemblement national et députée du Pas-de-Calais assistée aux cérémonies du 11 novembre à Hénin-Beaumont, interrogée sur les accusations de fraude qui hantent le scrutin pour la présidentielle américaine, elle a tout simplement refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden.
Moi, j'attends de savoir ce que la justice américaine dira. Ce que je note, c'est qu'un certain nombre de décomptes ont été effectués et que les décomptes donnent, pour ceux qui ont été sont terminés, des résultats qui sont différents de ceux qui avaient été annoncés. Donc, je fais partie de ceux qui ne félicitent pas le futur président des États-Unis parce que je ne considère pas que le match est joué tant qu'on n'a pas terminé les prolongations.
Donc vous ne reconnaissez pas encore la victoire de M. Biden ?
Absolument pas. Je suis d'ailleurs assez étonné de voir cette unanimité médiatique et parfois même politique pour se précipiter à annoncer un résultat alors qu'on sait qu'il y a des recours qui sont actuellement en train d'être étudiés par la justice.
Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national.
À Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, un homme est mort dans des conditions aussi mystérieuses qu'atroces.
Oui, il a été jeté du sixième étage, pieds et poings liés. Selon les premiers éléments de l'enquête, il partageait une chambre dans un logement social avec son assassin présumé qui a été interpellé.
On parlait de l'épidémie de coronavirus en France, mais en Europe, elle continue aussi de se propager, Isabelle.
Notamment en Grèce, hein, qui était déjà confinée, mais qui va imposer un couvre-feu nocturne dès vendredi. L'Espagne a dépassé la barre des 40 000 morts. La Grande-Bretagne compte plus de 50 000 décès. Quant à l'Italie, elle franchit le million de cas de contamination depuis le début de la pandémie.
Au Mozambique, une cinquantaine de villageois ont été massacrés par les djihadistes de l'État islamique. Les Nations Unies demandent au gouvernement mozambicain d'enquêter. C'est l'œil de Didier François.
Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors Emmanuel Macron emploie ce soir des mots très forts. Hein. Il parle d'actes barbares et il affirme que ça appelle une réponse internationale très forte.
Oui, parce que c'est effectivement un abominable massacre qui s'est déroulé dans un tout petit village isolé du district de Mwimbundé au Mozambique, donc près de la frontière tanzanienne, où sévit depuis maintenant 2 ans un groupe d'islamistes radicaux qui a prêté allégeance à Daesh. Alors la plupart du temps, ils restent cachés dans les forêts alentours, mais les djihadistes sont sortis cette fois de leur campement au début du mois pour s'approvisionner, comme d'habitude, en pillant les communautés agricoles locales. Elles sont arrivées dans ce village où se tenait une cérémonie animiste d'initiation des jeunes gens, vous savez, après la circoncision, ce qui est une tradition très ancrée en Afrique noire, mais dénoncée par les islamistes comme un rite idolâtre, ce qui vaut pour eux condamnation à mort. Donc une cinquantaine d'hommes et d'adolescents qui participent à cette cérémonie ont été rassemblés sur le terrain de football pour y être décapités, puis démembrés à coups de machette. Les djihadistes ont ensuite pillé le village avant de mettre les feux aux cases et ils sont repartis en emmenant en esclavage toutes les femmes et les jeunes filles, exactement comme ils l'avaient fait déjà en Irak ou en Syrie contre les yézidis.
Et l'armée mozambicaine semble totalement impuissante hein, face à cette nouvelle branche de l'État islamique.
Alors, elle a bien lancé depuis quelques jours une opération d'assez grande envergure contre les bases arrières de ce mouvement, mais qui sont pour le moment très... Là aussi, elles sont loin, donc ça progresse doucement. Les campements sont implantés dans des zones extrêmement boisées, particulièrement difficiles d'accès. Les populations locales, d'ailleurs, l'appellent la Syrie, c'est pour vous dire. Et il faut bien que l'armée, faut dire que l'armée mozambicaine n'a pas vraiment ni de matériel, ni d'expérience, c'est pas la plus forte de la région. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron, à juste titre, estime que la communauté internationale devrait lui apporter un soutien nettement plus important.
L'œil de Didier François, comme tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci beaucoup Didier. Allez, comme promis, on va vous parler maintenant de ce cambriolage hors norme. La victime, ce sont les douanes allemandes.
Ça s'est passé le dimanche 1er novembre et c'est vrai qu'il faut avoir un certain culot pour s'attaquer à un bâtiment officiel. Les cambrioleurs sont repartis avec 6,5 millions d'euros en espèces. Et le plus fou, c'est qu'il y a des témoins, mais cela ne les a pas du tout affolés pour autant, Hélène Cole.
Effectivement, ils ont bien pris leur temps. Selon des voisins dont les fenêtres donnent sur le parking du bâtiment des douanes, les trois braqueurs ont été aperçus faisant des allers-retours entre leur véhicule et le bâtiment entre 6h et 10h45 du matin. Il y avait aussi un complice qui semblait faire le guet. Tous étaient habillés de vêtements sombres et portaient un bonnet de laine. Donc c'est un casse qui a duré des heures et qui a nécessité une grande préparation. La salle qui abritait le pactole des douanes était en sous-sol, protégée par une porte de coffre-fort. Les voleurs ont pris le parti de la contourner en perçant le mur avec une machine utilisée normalement pour creuser des carottes dans la terre. Les riverains le confirment, ils ont entendu des bruits de perceuse ce matin-là. Ensuite, il a suffi aux voleurs de s'emparer des sacs de billets, de les charger dans leur camionnette et de disparaître. Cela paraît tellement incroyable que la police privilégie la piste d'un coup monté par quelqu'un à l'intérieur même des douanes. Quelqu'un qui aurait informé le gang de la présence de l'argent, quelqu'un peut-être aussi qui n'aurait pas donné l'alarme le jour J. Il y a une récompense de 100 000 euros pour tout renseignement qui fera avancer l'enquête.
Hélène Cole, correspondante d'Europe 1, donc à Berlin.
Allez, un mot de football. France-Finlande ce soir, match amical à 21h10 au Stade de France.
Et c'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. La météo. On voit ça tout de suite.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Anissa, du soleil après les grisailles demain.
Oui, c'est ça. La journée va débuter comme depuis plusieurs jours par pas mal de grisailles demain. Sur la moitié sud, ce sont les brouillards qui seront nombreux en plaine, en bord de Méditerranée. Attention aux entrées maritimes, vous avez l'habitude. Et de la Vendée à l'Alsace, hein, sur une belle diagonale qui coupe la France en deux, eh bien, la perturbation avance, mais elle ne va apporter que quelques petites gouttes, surtout un ciel gris. Dans l'après-midi, le soleil s'impose, surtout sur la moitié sud, sauf au bord de la Grande Bleue. Au nord, nuages et éclaircies se disputent le ciel. Les températures, 6 à 13 degrés demain matin, il fait encore doux. 13 à 22 dans l'après-midi.
Merci beaucoup Anissa. On vous dit à demain avec plaisir.
À demain.
Il est 19h12 sur Europe 1 et comme tous les soirs, on va ouvrir maintenant le Club des idées.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord, comme tous les jours, la carte blanche. Et ce soir, c'est Anne Rosanchet qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Anne Rosanchet, vous êtes directrice déléguée de la rédaction à l'Express. Et vous sonnez l'alarme quant à la façon dont certains voudraient soumettre l'art aux critères de la morale et du progrès. Expliquez-nous.
Oui, je vais vous parler ce soir de trois auteurs. Janine Cummings, Kate Russell et Timothée de Fombelle qui ont chacun connu de sérieuses déconvenues cette année outre-Atlantique. La première romancière a publié début 2020 un livre racontant le voyage calvaire d'une mère mexicaine et de son fils tentant de rejoindre les États-Unis. Problème selon certains, l'auteur serait trop blanche et pas assez latino pour être légitime dans cet exercice. Et le scandale est allé très loin. Il y a eu bien sûr les traditionnels appels au boycott et autres campagnes sur les réseaux sociaux, mais aussi, comme nous l'apprend le magazine Society, une lettre ouverte de 140 écrivains demandant à Oprah Winfrey, la célèbre présentatrice de télévision, qu'elle retire son soutien au livre de Cummings qu'elle disait avoir aimé. Pire encore, face à la bronca et même aux menaces, l'éditeur a dû annuler la tournée de promotion pour des raisons de sécurité.
Et alors, même genre de reproche pour la deuxième romancière ?
Oui, Kate Russell, elle a inventé l'histoire d'une élève de 15 ans sous emprise et abusée sexuellement par son professeur. Cette fois, on a reproché à l'auteur de n'avoir pas vécu elle-même le traumatisme dans son adolescence et donc de s'être approprié la souffrance des réelles victimes. Mais au moins, les livres de Cummings et de Russell ont-ils été publiés aux États-Unis ? Ce n'est pas le cas du roman jeunesse de Timothée de Fombelle. Cet auteur français, lui, a tout simplement vu son éditeur anglophone renoncer face à la peur du scandale. Motif, son livre racontait l'histoire d'une jeune esclave noire alors que lui
est un homme blanc.
Mais ce livre, il a été publié en France.
Oui, et même avec un certain succès, ce qui est assez rassurant. Sur ces sujets, notre niveau de dinguerie est bien en deçà de celui des États-Unis. Mais il y a tout de même quelques petits signes inquiétants. Voyez-vous, cette nouvelle façon de voir les choses prétend instaurer l'empire du premier degré dans la création artistique. Premier degré quant à la légitimité de l'auteur, donc, mais aussi quant à l'intrigue elle-même et à son caractère moral ou non. Et là-dessus, la France n'est pas étanche à l'air du temps. C'est ici un écrivain à qui l'on reproche un narrateur machiste. Là, des comédiens qu'on gronde sur un plateau télé pour avoir incarné des personnages dont le comportement entraînerait dans la vraie vie de gros ennuis judiciaires. Bref, nous ne sommes pas hermétique. Alors bien sûr, je ne doute pas que la plupart des créateurs et des artistes résisteront à ces intimidations. Au reste, c'est leur métier d'y résister. Et je ne crois pas que parmi eux, beaucoup aient envie d'être enrôlés pour devenir les petits soldats du progrès, de la vertu ou du bon goût. Mais par solidarité, peut-être, n'est-on pas obligé de gober toutes ces régressions maquillées en justice ? Et peut-on méditer la magnifique phrase de Madame de Staël ? Le bon goût en littérature est à quelques égards comme l'ordre sous le despotisme. Il convient d'examiner à quel prix on l'achète.
On va méditer, c'est promis. C'était la carte blanche d'Anne Rosencher. Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on ouvre maintenant, comme chaque soir, le débat du Club des idées d'Europe 1. Et en ce mercredi 11 novembre, on va revenir, bien sûr, sur l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix et de ceux de 14, en hommage à la France combattante. On en parle ce soir avec mes invités. L'écrivain Michel Bernard, auteur de Pour Genevoix, aux éditions La Table Ronde. L'historien Jean-François Decrenne, auteur du Dictionnaire des Gloires du Panthéon et du Petit Dictionnaire des Grands Hommes du Panthéon. Et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Merci à tous les trois d'être avec nous en ce 11 novembre. Alors avant de revenir sur le symbole du Panthéon, je voudrais d'abord qu'on parle de Maurice Genevoix qui a donc rejoint cet après-midi la crypte des grands hommes et des grandes femmes du Panthéon. Alors on l'a tous étudié à l'école, hein, théoriquement, mais on a tous un peu la mémoire qui flanche, parfois, moi la première. Michel Bernard, je vais d'abord vous donner la parole à vous puisque vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de Maurice Genevoix. J'ai parlé de votre livre, vous êtes également vice-président de l'association Je me souviens de ceux de 14. Maurice Genevoix, c'était avant tout l'écrivain des poilus, bien sûr, et de tous les oubliés de la Grande Guerre. Il faut rappeler que sa vocation littéraire, d'ailleurs, elle est née dans les tranchées.
Oui, il se destinait à devenir professeur. D'ailleurs, il était étudiant, élève de l'école normale supérieure, et il souhaitait devenir professeur de français, de lettres, à l'étranger. Il avait le goût des voyages. Et puis, démobilisé en 14, au moment où il aurait dû passer l'agrégation, il est sous-lieutenant, et il fait la guerre dans la Meuse, et il participe au combat des Éparges. Hein, il va revenir invalidé. Il va perdre l'usage d'un bras. 3 balles dans le flanc gauche et au bras gauche vont le rendre invalide pour la vie.
C'est au cours de son hospitalisation qu'il a eu ce déclic de l'écriture.
Pendant l'hospitalisation, il espère recouvrer les fonctions de son bras. Il veut reprendre le combat. Il veut rejoindre ses camarades de lutte. C'est après que le secrétaire général de l'école normale supérieure, Paul Dupuis, le convainc de coucher, tant qu'ils sont frais, ses souvenirs de guerre. Donc un peu moins d'un an après sa blessure, il se met à écrire. Et en 2 mois, il écrit le premier livre de ceux de 14 qui s'appelle « Souverdin ». Il est allé très vite. Tout était frais dans sa mémoire. Et là, il raconte la campagne au fil des jours. Ce n'est pas du tout un roman. C'est un journal de route d'un soldat comme les autres qui participe au premier combat de la guerre de 14 et puis qui découvre l'horreur de la guerre telle qu'elle s'exprimait à ce moment-là, c'est-à-dire le bombardement, les corps lacérés par les éclats d'obus, les hommes fauchés par les mitrailleuses, l'enterrement dans la boue, les intempéries là-dessus, le froid, la neige, la pluie, bref, l'horreur. Il découvre ce qu'on va ensuite appeler Verdun. Hein, mais c'est déjà là, aux Éparges, c'est déjà Verdun. Empire, parce qu'ils sont équipés comme en 14, pantalons rouges, pas de casque, et puis on découvre cette guerre à laquelle on ne s'attendait pas. Une guerre industrielle, sauvage, une guerre de matériel, où les hommes ne sont qu'un élément vivant qu'on jette sous des amas de ferraille et d'explosifs.
Et il le décrit tel qu'il l'a vécu, parce qu'au départ, il n'imagine pas forcément qu'il va avoir une carrière littéraire. Hein. Ce sont des récits d'un survivant.
En 1919, on lui demande, ça nous paraît incroyable aujourd'hui, on lui demande de passer l'agrégation. Il a perdu un bras au service de la patrie, et on lui dit « maintenant, vous passez le concours de l'agrégation ». Il est furieux, il est ulcéré, révolté. Lui, il a perdu le bras. Il a vu surtout beaucoup d'hommes mourir autour de lui. Il claque la porte de l'école normale. Il refuse de passer le concours. Et il repart chez lui, chez son père, au bord de la Loire. sans ressources. Son père est veuve, d'ailleurs. Et là, il continue à écrire. Il continue à écrire ses souvenirs de guerre. Ceux de 14 est un livre qui fait 1000 pages. C'est le pour 8 mois de guerre. C'est vraiment le témoignage le plus étendu que l'on ait sur la Grande Guerre d'un combattant du quotidien, d'un combattant de la glèbe.
Parce que ceux de 14, en fait, ce sont 5 récits de guerre qui sont compilés dans un même livre. Hein.
5 récits de guerre qu'il a écrits entre 1916 et le dernier était publié en 1923. Donc au moment où ce n'était plus à la mode, à partir de 1920, les Français ne veulent plus entendre parler de la guerre. Lui continue. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il aille jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, il est témoin des hommes tombés près de lui. Et donc jusqu'en 1923, il écrit. Les derniers livres qu'il publie n'ont aucun succès. Il n'y a plus d'écho. Mais il continue. Et ensuite, il devient le romancier que l'on sait. Et en 1925, il décroche le prix Goncourt pour Rabolio.
Oui, parce qu'il a écrit sur la guerre, évidemment, mais c'était aussi un écrivain passionné par sa région, la Sologne, par la forêt, par les animaux. Il a eu effectivement ce prix Goncourt pour son roman Rabolio en 1925. Il a été secrétaire perpétuel de l'Académie française. On peut dire qu'il a occupé vraiment une place de premier plan dans la vie littéraire française du XXe siècle.
Oui, il a occupé une place de premier plan. D'abord, c'est sans doute le plus grand écrivain français de la nature. Et puis, institutionnellement, il a eu une place de premier plan parce qu'il a été secrétaire perpétuel de l'Académie française à partir de 1958. Et donc, il avait un rôle pivot, à un moment qui était très difficile. Parce que c'est le moment où, dans l'histoire des lettres, on a les deux vagues littéraires conjointes, concurrentes, affrontées. Hein, ceux qui étaient compromis dans Vichy, comme Paul Morand, par exemple, un peu Monterland. Et puis ceux qui étaient issus de la résistance, comme André Chanson, qui était oublié aujourd'hui, ou comme Pierre-Emmanuel, le poète. Et donc Genevoix, lui, faisant quelque sorte l'arbitre, essayait de composer avec ces éléments qui sont le monde des lettres. Hein. Tous ces gens avaient du talent, mais ils étaient politiquement opposés. Et Genevoix s'efforçait de préserver les intérêts de l'Académie, de promouvoir la langue française, d'assurer la représentation de l'Académie, malgré les divergences profondes qui affectaient tous les gens qui en étaient membres.
Il a démissionné de l'Académie en 1973.
Alors, voilà, le travail fait, le travail accompli, parce qu'il a effectivement contribué à pacifier l'Académie. Il s'est retiré, il pensait qu'il avait encore quelques années à vivre. Il voulait les vivre pour lui-même, c'est-à-dire vivre au contact de la nature. Il s'est donc retiré sur la Loire à partir de 1973. Et il a vécu là cette année paisible, heureuse, ces dernières années, où il a continué à écrire. Et où il a d'ailleurs, son dernier livre est un livre de mémoire, où il revient encore une fois sur son expérience de la guerre, hein, 30 000 jours. Mais surtout, au moment où il quitte l'Académie française, il écrit La mort de près, un petit livre de 100 pages, où il revient sur son expérience de la mort, très concrète. Dans l'objectif de donner à chacun de ses lecteurs, qu'il ait fait la guerre ou pas, ce que lui avait appris au contact de la mort, de manière à lui léguer un message, c'est-à-dire que après la souffrance, il y a une grande douceur. Il l'a éprouvé, lui, au moment où, gravement blessé, il était en train de basculer de l'autre côté.
Michel Bernard, ce fut un long combat pour sa famille, cette entrée au Panthéon de Maurice Genevoix, c'est sa fille, puis son petit-fils qui se sont battus pour ça. Vous aussi, vous avez œuvré en ce sens. Ça a été dur de convaincre Emmanuel Macron ?
Il était déjà convaincu. C'est sa grand-mère qui lui avait fait lire Maurice Genevoix. Non. Ce que nous avons fait avec Sylvie, avec Bernard Maris, avec Julien, le fils de Sylvie.
Bernard Maris, qui était le compagnon hein, de Sylvie Genevoix.
Oui, avec Charlotte, c'est de rendre disponibles les textes. Maurice Genevoix est un grand classique. Et il y a une force d'évidence dans ces textes qui emporte la conviction. Il suffit d'ouvrir ceux de 14 ou La mort de près. Et on se rend compte qu'on a affaire à un immense écrivain français.
Emmanuel Macron, qui était convaincu, contrairement à ses prédécesseurs. Hein.
Oui, Emmanuel Macron a une fibre littéraire que tout le monde connaît. C'était moins le cas des prédécesseurs.
J'ai lu que Maurice Genevoix était une des rares personnalités auxquelles le général de Gaulle laissait la parole lors des cérémonies officielles.
Oui. C'est un moment très émouvant de la République. La dernière commémoration du cinquantenaire de la Grande Guerre, c'était en 1968, enfin l'avant-dernière, avant celle du 11 novembre 1968. Elle a eu lieu à la butte Chalmont. C'était devant un monument très émouvant, des fantômes de Landowski qui représentent des soldats morts. Redressés, qui regardent de leurs yeux morts la plaine. Et devant ce groupe monumental, Maurice Genevoix a pris la parole. devant le général de Gaulle, à la demande du général de Gaulle, pour s'exprimer au nom des anciens combattants.
Maurice Genevoix, qui est donc le septième écrivain à franchir les portes du Panthéon. Ça fait longtemps que vous attendiez ça. Merci beaucoup, en tout cas Michel Bernard, de nous avoir un peu rafraîchi la mémoire. Je rappelle que vous êtes auteur de Pour Genevoix aux éditions de la Table Ronde. Et on poursuit ce club des idées dans un tout petit instant sur Europe 1 avec mes invités. On va s'intéresser aux symboles du Panthéon. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h30 et c'est donc la suite sur Europe 1 de votre débat du Club des Idées. On parle ce soir de la panthéonisation de Maurice Genevoix. On a évoqué ensemble, il y a quelques instants, l'écrivain engagé. Je voudrais qu'on parle maintenant du Panthéon, ce lieu situé au cœur du quartier latin à Paris, qui accueille donc les grands hommes et les grandes femmes, avec sur son fronton la célèbre inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Toujours à mes côtés ce soir, l'historien Jean-François Decrenne, spécialisé dans les lieux de mémoire, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Le Panthéon, donc, qui a une histoire mouvementée, Jean-François Decrenne, puisqu'à l'origine, il avait été imaginé comme une église.
Alors, il était prévu que ce soit l'église Sainte-Geneviève, depuis Louis XV, en fait. Lorsque l'église est terminée en 1789, c'est la Révolution française, le bâtiment n'a pas été affecté au culte, et il se trouve qu'en 1791, Mirabeau meurt, et on veut... réunir la nation autour de la grande idée de la monarchie constitutionnelle. Et c'est la monarchie constitutionnelle avec Louis XVI qui, par un décret du 4 avril 1791, décide de transformer l'église Sainte-Geneviève en panthéon des grands hommes. C'est donc un monument national et non pas un monument républicain tel que...
Aujourd'hui, c'est quoi justement le Panthéon ? C'est une monumentale nécropole laïque, Guillaume Tabar ?
Oui, mais je pense que le rappel de l'origine du Panthéon est intéressant parce que ça montre bien cette histoire complexe de la France et ce débat entre ses racines chrétiennes et son identité laïque. Vous avez eu raison de rappeler qu'elle n'a pas été consacrée, mais après, elle a été rétablie au culte, notamment sous Napoléon, je crois, ou sous la monarchie de Juillet, puis après retirée, puis remise indéfiniment.
Il y a des allers-retours, oui, ça a changé beaucoup.
La croix qui surplombe l'église avait été détruite, puis reconstruite après
la
Donc,
commune.
Il y a ce côté mêlé. Et un détail de l'histoire du Panthéon qui m'amuse, c'est sous la Révolution, il y en a qui ont proposé d'y faire rentrer, tenez-vous bien, deux rois, Louis XII et Henri IV. Au motif précisément que ça avait quand même été des rois proches des Français, aimés des Français, etc. Donc, ce qui montre bien que cet sentiment de rupture radicale qu'a introduit la Révolution par rapport à son passé, au passé de monarchiste de la France, montre bien que tout ça n'est pas aussi évident. Et c'est vrai que ce Panthéon s'est installé aujourd'hui dans cet un peu univers républicain, propose à la République une sorte de substitut de liturgie. On voit pour certains événements, notamment comme pour la mort des présidents, comment une messe est quand même célébrée. On l'a vu dernièrement pour Jacques Chirac. Mais sinon, la République en elle-même est un peu en manque de liturgie. Ça a été restauré d'une certaine manière avec le Panthéon, avec une accélération de l'histoire. Parce que là, pour nous, ces images sont devenues un peu familières. Mais ces entrées régulières et massives, si j'ose dire, au Panthéon, elles sont quand même aussi un peu récentes. Je crois que sous De Gaulle, il y a eu celle de Jean Moulin, point barre. Et après, c'est Mitterrand qui a un peu relancé la machine.
Alors justement, Jean-François Decrenne, quel est le critère de la panthéonisation ?
Alors, le critère, le législateur a prévu un seul et unique critère. Il faut être porteur des vertus civiques qui font de vous une valeur, exemplaire de l'unité nationale. Oui. Point final. Et c'est le seul et unique critère. C'est un critère très important. Puisque c'est du pouvoir régalien de choisir ceux qu'on va panthéoniser. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est un acte politique, et c'est un acte politique pour réunir la nation. C'est pour ça qu'il n'est ni républicain, ni monarchiste. Le Panthéon est héritier de la tradition française depuis Sainte-Geneviève, puisque toutes les peintures pariétales qui ont été faites par la Troisième République honorent Louis IX dit le Saint, honorent Charlemagne, honorent Jeanne d'Arc. Donc on est dans la monarchie. La statuaire honore la République, les philosophes, Diderot, d'Alembert.
Il y a combien de personnes qui reposent là aujourd'hui, maintenant que Maurice Genevoix y est entré aujourd'hui ?
Il y a 42 dignitaires de l'Empire qui ne font pas partie du lot, des panthéonisés, du fait d'un décret de Bonaparte. En revanche, il y a 33 panthéonisés inhumés au Panthéon. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il y a 5894 panthéonisés. dont
ça veut dire que ce que vous nous dites, c'est qu'on peut être panthéonisé sans transférer
sans
les cendres.
D'accord. Sans translation des cendres. Et,
c'était le cas d'Aimé Césaire, par exemple.
Et le cas d'Aimé Césaire avait été longuement discuté. Oui. On en avait discuté. Les commissions en avaient discuté et le président Sarkozy avait très très bien compris que on pouvait panthéoniser, c'est-à-dire faire la cérémonie de montrer à la nation la valeur exemplaire sans translation des cendres. La plupart des panthéonisés, il n'y a pas de
translation des cendres. Il faut toujours l'accord de la famille.
Alors, il faut l'accord de la famille pour la translation des cendres, mais pas pour la panthéonisation. C'est-à-dire que lorsque le fils d'Albert Camus n'a pas voulu que son père soit panthéonisé, on pouvait passer parfaitement par-dessus la tête de la famille, puisqu'il n'y avait pas de translation des cendres. Saint-Exupéry est panthéonisé, Bergson est panthéonisé sans translation des cendres.
Je crois qu'il y a un seul président de la République qui est enseveli au Panthéon.
Salicarnot, oui.
C'est ça, oui.
Qui a été mort assassiné.
Pourquoi pas d'autres?
Il est mort assassiné et il est entré, je crois, dans la foulée de son assassinat.
Alors, après les funérailles nationales, il peut y avoir une panthéonisation directe. Et vous le disiez, ces substitutions par rapport à l'Église, c'est une espèce de cérémonie laïque avec finalement une vocation à vouer aux reliques. Eh bien, il y a une possibilité de mettre, comme on l'a fait pour le cœur de Gambetta, le cœur de Gambetta, et le corps de Gambetta est resté au cimetière de Nice.
D'accord.
C'est intéressant de rappeler, puisque on fête aujourd'hui aussi le centième anniversaire de la présence du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, qu'il y a eu un débat, à l'Assemblée nationale sur le lieu où devait être enterré le soldat inconnu et que le gouvernement avait prôné qu'il soit au Panthéon et que c'est l'Assemblée, cette fameuse chambre Bleu-Horizon élue après la Première Guerre mondiale, pardon, où il y avait de nombreux anciens combattants, et qu'on dit non, quand même, l'Arc de Triomphe, ça fait davantage militaire que le Panthéon, il faut que le soldat inconnu soit l'Arc de Triomphe et pas au Panthéon. C'est pour ça que ça a été enterré là.
Vous faites bien parler du soldat inconnu, puisque parmi ceux de 14, parce qu'on n'a pas attendu la panthéonisation de Maurice Genevoix pour honorer ceux de 14, parmi ceux de 14, il y a le soldat inconnu. Le soldat inconnu est resté au Panthéon du 11 novembre 1920, à janvier 1921. Ouais, d'ailleurs, le président de la République, dans son aparté ce matin avec le général qui est gardien de la flamme, en a parlé avec lui. Et c'est deux jours avant de l'inhumer à l'étoile qu'on a décidé de lui faire quitter le Panthéon. Mmh. Mais il est panthéonisé. Et concernant la Grande Guerre, la panthéonisation de Maurice Genevoix clôt la séquence mémorielle. Clôt la séance mémorielle, mais qui a commencé, elle, en 1920. Dès la fin de la Grande Guerre, le 11 novembre 1920, le soldat inconnu. En 1919, le général Malter fait l'appel à 560 écrivains combattants qui sont panthéonisés dans une panthéonisation collective et dont les noms sont inscrits sur les murs du Panthéon. Et pour l'anecdote, il y a un Genevois, d'ailleurs, un Gustave Genevoix, vétéran de la guerre de 1870, qui a été affecté à 67 ans, volontaire, au 1er régiment du génie. Il meurt gazé le 19 mars 1919.
Donc il y a deux Genevoix depuis aujourd'hui.
Et maintenant, il y aura un Genevoix panthéonisé sans translation et un Genevoix panthéonisé avec translation.
Messieurs, on poursuit ce débat sur Europe 1 en direct dans un tout petit instant. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h40, merci à vous d'écouter Europe 1. Maurice Genevoix est donc entré en Panthéon ce soir avec ceux de 14 et on continue d'en parler dans le Club des idées d'Europe 1, toujours avec Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste au Figaro, et l'historien Jean-François Decrenne. Alors c'est la deuxième panthéonisation pour Emmanuel Macron après celle de Simone et Antoine Veil. Guillaume Tabar, Maurice Genevoix qui on le disait, est paraît-il l'un des écrivains préférés du président français.
Oui, en tout cas, c'est vrai que Emmanuel Macron a un véritable goût pour la littérature, pour la lecture, et que Genevoix fait partie de ces écrivains qu'il a bien aimé. Alors, en même temps, C'est aussi les circonstances qui ont fait que c'est lui qui a été choisi. C'est pas uniquement une affaire de goût personnel.
On peut imaginer aussi que peut-être Brigitte Macron, ancienne prof de français, a eu une influence dans cette décision. En tout cas, le président de la République, il a une passion pour l'histoire. Et vous écrivez dans le Figaro, Guillaume Tabar, qu'il est le président qui a le plus le goût de la commémoration.
Oui, ça s'explique à la fois pour des raisons d'état civil, parce que c'est par définition le plus récent, mais aussi le plus jeune des présidents. Je vous rappelle qu'il est né en 77, donc 77, c'est 15 ans après l'indépendance de l'Algérie, c'est près de 10 ans après 1968, donc lui, son histoire personnelle, elle est étrangère à toutes les grandes brûlures, y compris les plus récentes de l'histoire. Donc il a peut-être chez lui un besoin plus fort encore de s'arrimer à tout un récit national, en plus par goût, par culture, par intérêt. C'est vrai qu'il a ce sens de l'histoire. Souvenez-vous même avant, quand il avait dit que les Français restaient... rester orphelin d'un roi. Voilà, il y a toujours chez lui cette idée que l'histoire de France, elle est indivise, elle est continue. Souvenez-vous, il avait été à Orléans pour honorer Jeanne d'Arc, il était au Puy du Fou aussi pour honorer aussi une histoire plus large. Voilà. Il aime bien ça. Alors après, il y a aussi son goût peut-être personnel pour la mise en scène. Bon, c'est sûr que voilà, et on le voit fréquemment dans ce genre de circonstances. Et moi, ce que je trouve intéressant, on parle beaucoup donc de cette panthéonisation d'aujourd'hui, celle de Simone Veil que vous avez rappelée, mais dans ces événements un peu mémoriels, il y a d'autres circonstances et c'est frappant aussi de voir comment... Alors, il a fêté tout l'itinérance mémorielle qu'il avait entamée il y a deux ans, justement déjà autour de la Grande Guerre. Mais moi, je voudrais aussi rattacher ça aux cérémonies organisées, enfin les hommages rendus aux Invalides pour des personnalités défuntes. Enfin, donc, il y a eu Jean d'Ormesson, il y a bien sûr... toutes les victimes du terrorisme, ouais. Etc. Mais il a ce goût d'honorer c'est un peu ces grandes figures de la France. Et les Invalides, et dans le passé récent, dans l'actualité de la France, les Invalides sont devenus aussi un autre lieu de mémoire important. Puis les Invalides, c'est quand même pas rien. On parlait de ceux qui sont au Panthéon, mais accessoirement, aux Invalides, il y a quand même Napoléon lui-même, il y a Foch et tous les grands généraux de la Première Guerre mondiale, il y a Turenne, il y a le cœur de Vauban, enfin voilà, aux grands hommes, les Invalides aussi sont reconnaissants. Et Emmanuel Macron, voilà, aime bien multiplier un peu ces lieux de mémoire et je rajouterai aussi l'hommage qu'il a voulu rendre à Samuel Paty à la Sorbonne, on a dit que c'est les Lumières, mais la Sorbonne, c'est aussi la tradition, ce qu'on appelle la scolastique. C'est-à-dire que la première faculté de théologie à Paris au XIIIe siècle, c'est toute l'histoire de l'université française. Voilà. Et Macron aime bien, à travers les lieux, à travers les monuments, rappeler tout ce qui a façonné notre histoire.
Jean-François de Crenne, est-ce qu'il y a toujours une portée politique dans une panthéonisation?
Oui, et comme vient le dire Guillaume Tabar, le président Macron s'inscrit dans une histoire républicaine consulaire avec les Invalides et le Panthéon. Parce que c'est un décret de Napoléon Ier qui, en 1802, affecte la crypte du Panthéon aux grands serviteurs de l'État, particulièrement aux sénateurs, et qui affecte la crypte des Invalides aux grands capitaines serviteurs de l'État. C'est tombé en désuétude, bien sûr, pour le Panthéon, ça ne l'est pas pour les Invalides.
Et est-ce que c'est une façon aussi de refaire pour un chef de l'État l'unité nationale autour d'un héros et peut-être encore plus en ces temps troublés, hein, c'est un acte politique du pouvoir régalien.
Oui, c'est sûr que l'appel à l'unité est toujours un mantra des présidents, surtout quand l'unité n'est pas présente. Et c'est moins qu'on puisse dire, on est quand même une période de grandes fractures, fractures sociales, fractures économiques, fractures idéologiques. On voit tous les débats, enfin, bien sûr, autour du terrorisme, et même s'il abordait la question du séparatisme, le propre du séparatisme, c'est de briser l'unité, y compris l'unité culturelle, l'unité de pensée d'une nation. Et
refaire corps, refaire nation, c'est aussi un vocabulaire qui revient quand on évoque la crise du Covid. Hein.
Oui, exactement. D'ailleurs, les mots, il a commencé cette semaine en célébrant le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Et les deux mots qu'il a inscrits, je crois, sur le livre d'or à Colombey lorsqu'il y a été lundi, c'est résilience et volonté. Or, résilience, c'est le maître mot d'Emmanuel Macron pour parler aujourd'hui de la crise du Covid. Lors de sa dernière intervention télévisée, il a dit que cette crise révélait la résilience du peuple français, c'est-à-dire la capacité d'affronter une épreuve.
Et c'est un mot qu'il a encore employé aujourd'hui, d'ailleurs. Oui.
Voilà, et donc il aimerait que le pays fasse preuve de cette résilience.
Mais est-ce que parier sur la communion républicaine pour rassembler le pays, ça marche encore aujourd'hui, y compris chez les jeunes ?
Écoutez, je dirais oui et non à la fois. Non, c'est-à-dire essentiellement non, au sens où, on voit bien, vous avez raison de parler des jeunes, mais les crises économiques, les crises sociales, ça, les crises sécuritaires, ce n'est pas une cérémonie, aussi belle soit-elle, qui va y répondre et qui va régler les problèmes comme par enchantement. Et voilà, je pense que personne ne le croit. Mais on a, et tout le monde a besoin, quelle que soit sa sensibilité politique, son âge, son origine sociale, on a quand même besoin de ces moments où on se dit, bah tiens, ça, pour le dire trivialement, ça a de la gueule. Et c'est vrai que quand on voyait tout à l'heure les images du Panthéon, ce bleu et ce rouge sur la façade du Panthéon, ces plots qui marquaient l'arrivée elle-même du cercueil avec le drapeau tricolore, bah oui, ça avait de la gueule. Tout comme l'hommage à Samuel Paty avait de la gueule, en dépit du moment tragique. Mais voilà. Et quand je dis ça a de la gueule, c'est-à-dire que ça prend aux tripes.
Mais les Français sont sensibles donc à ce genre de commémoration. On avait vu que les séquences mémorielles elles peuvent jouer hein, sur la popularité. François Hollande, il avait pris 2 points dans les sondages après la panthéonisation de 4 figures de la résistance en 2015. Je me souviens que Paris Match avait titré l'effet panthéonisation.
Oui, alors le problème pour les présidents, c'est que les effets panthéonisation ou dramatisation, c'est assez éphémère. Hein. Oui. Vous avez cité panthéonisation, c'est encore plus vrai pour les attentats. François Hollande avait gagné 15 ou 20 points après l'attentat du Bataclan. Il les a reperdus assez rapidement après. Emmanuel Macron aussi est pareil. Au moment de la crise du Covid, annonce du confinement, il monte, puis il rebaisse. Là, il remonte à nouveau. C'est très fluctuant. Ces événements sont d'autant plus éphémères qu'ils sont forts. Et quand on s'adresse à l'imaginaire, on frappe les esprits. Donc, c'est un effet un peu immédiat, mais peut-être pas en profondeur.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura un prochain panthéonisé sous le mandat d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est envisageable ? Et si oui ?
Alors moi, j'ai une petite frustration pour aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai aimé qu'en même temps que Maurice Genevoix, il panthéonise Charles Péguy. Charles Péguy, mort au début de la guerre. Hein, et Charles Péguy, c'était précisément une figure qui réconciliait bien des traditions françaises. Il était à la fois socialiste par son histoire. Après, il s'était converti au christianisme. Donc, il symbolisait toute cette histoire de France. Ça aurait été, je trouve, un beau geste de le panthéoniser également aujourd'hui.
Et pour vous, Jean-François Decraene, très rapidement, s'il y avait une personne qui méritait là, d'aller
dans le cadre de la clôture des commémorations de la Grande Guerre, il y aurait eu une femme, Marie Marvin, infirmière major, pilote, journaliste, soldate dans les tranchées, 47 jours de combat dans les tranchées. Elle était aviatrice. Elle a mis son avion à la disposition de l'armée qui l'a refusé, ce qui fait qu'elle enlevait les blessés clandestinement en transformant son avion en avion ambulance. Elle a été premier pilote de bombardier puisqu'elle a bombardé la base aérienne de Metz qui était aux mains des
Allemands. Aussi,
et elle était tout indiquée pour accompagner Maurice Genevoix, Charles Péguy, éventuellement Apollinaire et Louis Pergaud.
Merci beaucoup à tous les deux. La liste est longue, très certainement. Jean-François Decraene, auteur du Dictionnaire des Gloires du Panthéon et du Petit Dictionnaire de Grands Hommes du Panthéon. Guillaume Tabard du Figaro, puis on remercie également l'écrivain Michel Bernard qui était avec nous.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h52, on est toujours ensemble sur Europe 1 et dans le Club des idées. On va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité. Ça s'appelle Le Jour Où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Et nous commémorons aujourd'hui l'armistice de la Grande Guerre, le 11 novembre. Et ce soir, on va s'intéresser à une page de l'histoire. C'est l'un peut-être des secrets les mieux gardés de notre République, l'histoire dans l'histoire. Ce que l'on a appelé les fusillés pour l'exemple. Un peu plus de 600 hommes qui ont refusé de combattre au front et qui sont morts sous les balles de leur propre pays. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
L'une des plus grandes mutineries de 1917, Pauline, c'est celle du chemin des Dames. 40 km entre Laon, Reims et Soissons. bataille perdue et échec sanglant de la Première Guerre mondiale.
Oui, cela devait être la percée décisive contre les Allemands. Deux jours, pas plus. Mais la promesse du général Nivelle ne résiste pas longtemps aux mitrailleuses ennemies. Avril 1917, les Allemands sont sur la crête. Côté français, le caporal Albert Truton, les soldats Théophile Boisseau, Charles Valli partent à l'assaut. 20 fois, 30 fois, ils montent à genoux ces terres boueuses, 30 kilos sur le dos. Il faut traverser les barbelés, escalader les pentes, meurtris par les obus. Il pleut, la glaise colle aux pieds. En 1996, le général Maurice Bourgeois racontait sur Europe 1 son expérience de la Grande Guerre.
Les pieds s'enfonçaient dans la boue par-dessus les brodequins. C'est bien qu'à un moment donné, j'ai un brodequin qui a commencé à lâcher. Les lacets étaient usés, fatigués. C'est bien que j'ai terminé la relève avec mes chaussettes. Mais dans cette boue, des cailloux, des morceaux de bois, des éclats d'obus qui étaient enfoncés, là, je perdais l'équilibre, je tombais et je m'étalais dans la boue. Voilà, j'étais arrivé, j'étais un véritable bloc de boue.
Les pertes sont terribles. En 3 semaines, aucun soldat n'arrive sur la crête. Tous ces hommes, paysans, mineurs, instituteurs, meurent avant d'y parvenir ou se replient dans les tranchées. Le général Nivelle s'entête. Il faut gagner, coûte que coûte, monter au front. Mais sous la mitraille, une centaine de soldats tombent chaque minute. Les poilus n'en peuvent plus, là d'être sacrifiés pour des combats qu'ils savent inutiles.
Et c'est donc à ce moment-là, Pauline, en juin 1917, que des centaines de soldats commencent à critiquer leur chef et cette boucherie inhumaine qu'ils jugent inutile.
Oui, Albert Truton, 32 ans, médaillé militaire à Verdun, caporal. Le jeune soldat Charles Valli, qui était de toutes les batailles, la Somme, la Lorraine, l'Artois, Théophile Boisseau, 31 ans, soldat et paysan. Mais après 3 ans et demi de guerre, un matin, c'en est trop. Nous ne remonterons plus sur le chemin des dames, disent-ils. Cris, hurlements, révolte, abat la guerre, vive la révolution. Un chant deviendra le symbole de cette mutinerie. La chanson de Craon, le nom d'un village sur le chemin des dames.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini.
187 000 morts dans cette bataille, massacrés pour la gloriole de certains généraux, diront les poilus. Ils nous prennent pour des bêtes, écrira l'un. Ils méprisent nos vies. Nous sommes hébétés devant l'obscénité de cette guerre, dira un autre. Ferdinand Gilson avait 19 ans lorsqu'il s'est battu dans la Somme.
Je me contentais d'obéir à mes chefs. La guerre est le fruit empoisonné de la sottise et de la méchanceté humaine ensemble réunis. C'est une connerie impossible.
Les mutins du chemin des dames sont arrêtés. Le caporal Truton est fusillé le 18 juin 1917 par 12 soldats français et devant 250 camarades de sa division. Lorsque plus tard, la nouvelle se répand dans son village, la famille de ce jeune soldat est lynchée. Sa grand-mère, on lui jette des pierres, honte, des aveux, lynchage pour la famille de ce jeune paysan du Perche qui écrira à sa femme avant de mourir « Si tu savais, chère femme, que je pleure ». Car moi, qui n'ai jamais été puni, j'en ai gros sur le cœur.
Et alors, ces fusillés, pour l'exemple, Pauline, ils ont longtemps été mis de côté, écartés par l'armée, par l'État. Il a fallu des dizaines d'années avant qu'un homme politique tente de les réhabiliter.
Oui, après l'armistice, effectivement, la France célèbre la victoire en grande pompe. Pas question de parler de mutinerie. Il y aura bien des livres, des manifestations, des familles à la recherche de la vérité. Mais pour entendre parler de réhabilitation dans la voix d'un politique, il faut attendre 98. Lionel Jospin, alors Premier ministre, se rend à Craon lors d'un déplacement officiel.
Que ces soldats, fusillés pour l'exemple, au nom d'une discipline dont la rigueur n'avait d'égal que la dureté des combats, réintègrent aujourd'hui pleinement notre mémoire collective nationale.
Ce discours va provoquer un tollé à droite dans les rangs du RPR. Jacques Chirac rappelle à l'ordre son Premier ministre. Encore aujourd'hui, ils ne sont qu'une poignée de soldats à avoir été réhabilités. Réhabilitation qui, pour certains descendants, n'a plus aucun sens aujourd'hui. L'État ne devrait-il pas plutôt nous ouvrir ses archives, disent-ils, et solliciter notre pardon.
Eh bien, merci beaucoup, Pauline Jacquot, de nous avoir fait revivre ce moment de notre histoire. Dans un instant, place à la musique sur Europe 1. Ce sera avec Émilie Mazoyer. Émilie qui reçoit ce soir Prudence, la chanteuse du groupe The Do. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve demain dès 18h avec Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.
Europe Soir. Le 18-20.